contexte.
Le peuple de Dieu vient de passer 40 ans dans le désert. Et la conquête a déjà commencé à l'est du Jourdain, avec Moïse. Il reste encore à conquérir tout l'est du Jourdain. La conquête ne se fera pas avec Moïse, qui lui a déjà 120 ans. La conquête se fera avec son successeur, que Dieu a appelé. Il se nomme Josué. Josué n'est pas n'importe qui appelé à faire n'importe quoi. Voici son histoire.
Tout commence par la sélection de Josué, sa formation et la passation de pouvoir. Josué n'est vraiment pas n'importe qui. Il est choisi par Dieu car en lui réside son esprit. Il est aussi connu du peuple. Josué est déjà connu dans le livre de Nombres, Nombre 13, où Moïse avait envoyé 12 espions pour voir ce qui pouvait se passer à Canaan. Josué faisait partie de cette équipe. Et étant revenus, 10 ont découragé le peuple à aller conquérir le pays de Canaan. Mais Josué et Caleb ont dit non, il faut y aller. Ils avaient peur parce qu'il y avait des géants, comme ils l'ont dit. Mais Josué est resté fidèle et a resté dans l'idée qu'il fallait conquérir le pays de Canaan. Il était avec Moïse et Aaron. C'est d'ailleurs Josué et Caleb qui sont les seuls à pouvoir entrer dans la terre promise des hommes de plus de 20 ans, selon l'expression du texte. L'autre génération meurt dans le désert. Josué apparaît aussi dans le livre du Deutéronome. Il est présenté comme l'assistant de Moïse, son second. Et déjà là, il est prévu comme la personne qui mettra Israël en possession du pays promis. Et Dieu avait même dit à Moïse d'affermir et de fortifier Josué en perspective de la succession. Et on retrouve à nouveau Josué à partir du chapitre 31 du livre du Deutéronome, pour le début de son service, et non à ce qu'on pourrait penser à partir du début du livre de Josué. Je vous propose une transcription de la cérémonie de passation de pouvoir qu'on lit dans Deutéronome 31. Moïse adressa à tout Israël le discours suivant. J'ai maintenant 120 ans. Pas mal. Je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici. L'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Il détruira devant vous les nations qui habitent là-bas, pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sion et Og, roi des Amoréens, ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces nations, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Prenez courage, tenez bon. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Puis, Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Josué est là pour continuer la mission de Moïse. Moïse, sa mission, c'était de donner au peuple une identité nationale et spirituelle et la conduire vers un pays ruisselant de lait et de miel. Ça, c'était la charge, la mission, le service qui était confié à Moïse. Et Moïse rappelle cette mission, traverser le Jourdain et continuer la conquête. Prendre possession de Canaan. Moïse rappelle aussi les promesses de Dieu. Que Dieu marchera lui-même devant eux et encore plus avec eux. Dieu promet de ne pas les délaisser et de ne pas les abandonner. Dieu leur dit que c'est lui qui qui va détruire les nations alentour, comme il aurait pu le faire avec des peuples alentour. Que c'est Dieu qui donnera la victoire. C'est pour ces raisons que le peuple ne doit pas craindre, le peuple ne doit pas avoir peur. C'est Dieu qui est là et qui gère, il gère tout. Ils doivent tenir bon, avoir confiance en Dieu. Et Dieu le répète, et se veut très rassurant. Soyez courageux, ne craignez pas. Quand on lit un discours comme ça, un discours de Moïse qui rappelle les promesses de Dieu, on a envie d'y aller, sauter les deux pieds dedans. Dieu va gérer, Dieu gère tout. Ça pourrait l'être. Mais le problème, ça ne va pas se passer comme ça. Le peuple va se détourner de Dieu. Même si, a priori, il n'a aucune raison, selon les promesses de Dieu, de se détourner de Dieu. Mais le peuple va se détourner de Dieu. Dieu connaît leur cœur, et il le dira aussi. Il est conscient que malgré tout, ils vont se détourner de lui. Et si vous lisez le livre de Josué, tout va bien se passer. Vous commencez le livre des juges, ça commence à déconner à fond, hein, et de pire en pire, de mal en pire. Hein, voilà, vous pourrez voir un peu l'idée, mais une fois que Josué est mort et que ceux, les conseillers qui étaient avec Josué sont morts, le peuple, ça part dans tous les sens, quoi. Dieu connaît le cœur du peuple, et Dieu sait cela. Dieu va convoquer Moïse et Josué pour leur dire ce qui va se passer après. Notre petite lecture. On continue dans Deutéronome 31. L'Éternel leur apparut dans la colonne de nuée qui se tint à l'entrée de la tente. S'adressant à Moïse, il dit « Voici que tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres décédés. Après ta mort, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans lequel il se rend. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. À cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je l'abandonnerai et je me détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d'autres nations. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront, en vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d'eux à cause de tout le mal qu'ils ont commis en se tournant vers d'autres dieux. » Un peu plus loin, verset 23. « Après cela, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Noun, et lui dit, « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment, et moi, je serai avec toi. » Voilà le début de service de Josué. Sympa, hein? On vous convoque pour vous donner une belle mission et en vous rappelant que Dieu va être là, il va y avoir la conquête du pays et en même temps, on vous dit, non mais de toute façon, le peuple, il ne faut pas se fourvoyer, il va se détourner de moi, il va m'abandonner, il va faire n'importe quoi. Mais prends courage et tiens bon. Voilà un peu l'atmosphère du texte, un peu étrange quand même, hein? On va essayer de défricher tout ça ensemble. L'Éternel rappelle que le peuple va se prostituer avec des dieux étrangers. Ils vont faire des alliances avec d'autres dieux. Ils vont abandonner l'Éternel et violer l'alliance conclue. En contrepartie, Dieu dit que je vais se mettre en colère, à juste titre hein, quand même, qu'il va à son tour se détourner de deux, et les abandonner à cause de leur infidélité et les laisser à la merci des autres peuples. Mais malgré cela, Dieu va quand même les faire entrer dans le pays de Canaan. Une petite difficulté que je voudrais vous proposer ou discuter avec vous. Vous avez peut-être fait attention à la lecture que dans les promesses de Dieu, il leur dit « Je ne vais pas vous abandonner » dans la première lecture. Et là, il leur dit au verset 17, donc au verset 6, il dit « Je ne vous abandonne pas », verset 17, « Je vais vous abandonner ». Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Qu'est-ce que tu écris? Comment comprendre ça? Dieu n'a pas dit qu'il allait rompre l'alliance qu'il avait conclue avec eux. Si on regarde le verset 16, le peuple, lui, va abandonner Dieu et violer l'alliance. Donc, à Maritsu, vous savez, ils ont fait des choses bien, mais ils ont aussi fait une traduction de la Bible. Et on peut lire dans la Bible pastorale de Maritsu, la version suivante du verset 16, « Le peuple m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai faite avec lui. » Donc, le peuple abandonne et en plus, il va violer l'alliance. Ce n'est pas juste on va se détourner, il va en plus violer l'alliance, rompre l'alliance. Violer, pardon, l'alliance. Mais Dieu, lui, ne dit à aucun moment qu'il va rompre l'alliance, rompre cette alliance. Même s'il aurait des motifs pour rompre cette alliance. Alors, si on veut prendre le parallèle avec le mariage, ce n'est pas parce qu'une personne infidèle a violé l'alliance que le mariage est rompu. Le mariage n'est pas rompu quand il y a une infidélité. Le mariage, l'alliance est violée, est transgressée. Ça donne des motifs, des raisons pour pouvoir rompre l'alliance, rompre le contrat, parce que c'est une clause du contrat. Mais le contrat n'est pas rompu. L'autre personne peut très bien pardonner. Mais elle n'est pas obligée, même si Dieu nous demande de pardonner, quand il y a une demande de pardon. Dieu, dans ce texte, ne parle pas de rompre l'alliance. Il ne dit pas qu'il va les abandonner. Il a de quoi leur dire « Dégagez, vous avez cassé le contrat, vous n'avez pas respecté notre engagement mutuel. J'ai de quoi vous dire « Partez, on rompt l'alliance. » Mais Dieu ne souhaite pas rompre cette alliance et garde l'alliance. Mais il va les délaisser, il va les abandonner pour un temps. Dans la Bible, la traduction à la colombe, je trouve que la traduction peut nous aider, dit que Dieu va leur cacher sa face. Dieu va leur cacher sa face dans le but qu'ils se rendent compte qu'ils ont abandonné Dieu. Et ainsi, ce jour-là, si je cite le texte, ce jour-là, les Israélites se diront « En vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. » Dieu va les laisser pour un temps. Il ne va pas abandonner son peuple. Il ne va pas les abandonner. Il ne va pas rompre son alliance. Il va les laisser pour un temps pour qu'ils comprennent ce qui se passe quand ils ne sont plus dans sa présence. Dans la présence de Dieu qui pourvoit, qui donne les bénédictions. Quand on parle de ça, ça met en avant le côté que Dieu ne souhaite pas justement rompre cette alliance. Il souhaite que cette alliance perdure, malgré tout, même si elle a été trahie, même si le peuple a trahi Dieu. Dieu ne veut pas rompre cette alliance. Et garde et fait tout pour garder cette alliance. Et Dieu connaît le peuple, comme je disais, connaît leur cœur. Et veut quand même leur montrer que lui, il est là, il est fidèle, il tient ses promesses. Ils vont aller dans ce pays, ce Canaan, ce pays. Mais Dieu, malgré ce discours qui pourrait être dérangeant à l'écoute pour Josué, que tout le monde va l'abandonner alors que Dieu lui promet des choses merveilleuses, Dieu lui redit à chaque fois, prends courage et tiens bon. La difficulté principale de Josué ne vient pas de l'extérieur, ne vient pas des peuples alentours, certes, je le disais au départ, hein, c'est lui qui a été à Canaan au départ comme pour faire un peu comme espion pour voir ce qui se passait et qui a vu qu'il y avait des gens, des géants, comme c'est dit. Donc, il voit la difficulté des autres peuples, mais ça, il la connaît. Mais la difficulté aussi pour Josué, c'est la difficulté du peuple. Qu'est-ce qui va se détourner? C'est son peuple. Double difficulté pour Josué. Les gens autour et les gens de son peuple aussi. Difficile pour Josué d'avoir du courage et tenir bon. Comment avancer? Comment avancer quand on sait que ça ne sert à rien? Ça ne sert à rien ce qu'on va faire concrètement. On veut conquérir ce pays pour que le peuple puisse habiter et vivre bien et qu'on sait que le peuple va se détourner et du coup ils vont partir. Ils ne vont pas avoir le pays. Ils vont faire n'importe quoi. Comment avancer dans ces conditions? Comment remplir sa mission? Comment remplir son service? On a vu que Moïse était à un âge avancé, 120 ans. Donc, à un moment donné, il meurt. vous le concevez. Dans Josué 1, on a Moïse qui est mort. Et Dieu reprend la parole et reparle à Josué. Je vous fais toute la cérémonie et le début du ministère de Josué. Bon, maintenant, on passe à Josué, chapitre 1. Donc, après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur, Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Là, dans ce texte, Dieu met juste l'accent sur ce qu'il va faire, qu'il est là, il se veut à nouveau rassurant. Je suis là, c'est moi, vous avez vu, j'ai insisté, quand Dieu dit « je vais faire ça, je fais ci », Dieu est là et Dieu encourage Josué à persévérer, à garder la mission, à tenir bon. Il l'encourage à tenir bon et à accomplir les objectifs fixés. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il dit « veille à obéir à la loi sans t'en écarter et ainsi tu réussiras. » Il lui dit de répéter sans cesse les paroles de la loi, de la méditer jour et nuit et, encore une fois, d'appliquer la loi afin de réussir. Autrement dit, qu'est-ce qu'il demande à Josué ? Il lui demande d'être un croyant authentique pour tenir bon. La formule, si vous voulez une formule, si vous aimez les choses qui marchent, pour tenir bon avec Dieu, il faut rester centré sur lui. Il faut rester, il faut veiller à sa relation avec lui. La loi qui peut avoir un accent négatif pour nous, ou pour certains, la loi, elle est présentée, c'est la loi, c'est l'image de Dieu. La loi montre qui est Dieu, et nous montre les perfections de Dieu. Et nous montre comment Dieu est bon, et il a amour, il est parfait, il est juste. La loi est là pour montrer qui est Dieu. En tout cas, pour nous faire découvrir qui est Dieu. On ne va pas résumer Dieu à une loi ou à sa loi. Mais en tout cas, la loi nous montre Dieu, pointe sur Dieu. Manifester de l'amour de Dieu, c'est écouter la loi de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, c'est un commandement. Pourquoi alors faire la conquête si le peuple va se détourner ? C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de pointer vers Dieu, pour Josué, simplement. Et de dire que Dieu tient ses promesses, que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Montrer que Dieu veut donner des bénédictions. Dieu est là pour bénir le monde. Et le monde, sans... quand je dis le monde, ce n'est pas le monde négatif, hein, c'est tout le monde. Dieu est là pour bénir tout le monde. On a vu que Dieu veut montrer son amour à travers sa fidélité à son alliance. Voilà pourquoi Josué doit continuer, pour continuer de pointer vers Dieu. La conquête n'est pas du tout la finalité. C'est un objectif qui leur permet d'exprimer la bénédiction de Dieu pour le monde. La conquête n'est pas la finalité. C'est un objectif permettant l'expansion de la bénédiction pour le monde. Mais quand même, comment se motiver quand ce que vous faites ne semble pas être utile? La première raison, c'est que Dieu l'a demandé. Donc c'est déjà utile pour Dieu. La deuxième raison que je vous propose, c'est d'être partenaire avec Dieu pour son service. C'est chouette, hein? Ce matin, Fabrice nous rappelait que nous allons participer à la nature divine. Là, on participe à sa mission, à son service. Collaborateur de Dieu, c'est chouette comme titre, hein? C'est mieux collaborateur de Michael, de moi, hein, pas de l'autre. Bon. C'est mieux quand même. Aussi, parce que on témoigne l'amour de Dieu quand nous le servons fidèlement. Comment avancer quand tout nous semble compromis? En regardant vers Dieu, en méditant sa loi, sa parole, en priant et en écoutant Dieu. On oublie le dernier point, l'écoute de Dieu. Comment on peut avancer? En nous pointant vers la parole de Dieu, en écoutant Dieu, en lui demandant de nous répondre. Et c'est pour ça que Josué a besoin de courage. Il a besoin d'être assuré que Dieu est là. Il n'y a que lui, il n'y a plus que lui. Il a besoin d'être assuré que Dieu est là. Ce n'est pas le peuple qui va le soutenir. On a bien vu dans le passé que le peuple était déjà réfractaire à Moïse. Josué, là, sera seul dans sa mission. Il doit mettre sa confiance en Dieu pour réussir. Le peuple va quand même être fidèle tout le temps de Josué. Mais ça, Josué ne sait pas forcément jusqu'où le peuple sera fidèle. Et pour Josué, c'est difficile de jongler avec le peuple. Son point de repère, c'est Dieu dans sa mission, dans son service. Comment réussir pour Josué? Faire confiance en Dieu, car lui est fidèle. On a vu que Moïse a pris soin de sélectionner son successeur, une personne qui était connue du peuple, une personne qui avait les capacités, les dons, une personne avec qui Moïse a travaillé pour lui donner, pour fortifier ses compétences, ses dons, pour les faire grandir. Moïse lui a transmis le flambeau devant tout le monde, lui a montré la direction. Josué, qui est une personne totalement différente de Moïse, va garder cette même direction. Il va aller prendre possession du pays, malgré le peuple. Josué est appelé à tenir ferme en méditant la loi de l'Éternel et à garder confiance en lui, même si la mission est dure et compliquée, d'autant plus qu'il connaît la fin. Quelle est la mission de Josué? Je rappelle, la conquête n'est pas la finalité. Sa mission derrière tout ça, c'est l'expansion de la bénédiction pour tout le monde. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur doit aller dans cette direction. Pour ceux qui me connaissent, je suis missionnaire avec une association étudiante pour faire découvrir la Bible. Et mon souhait n'est pas qu'il y ait plus de GBU, mais qu'il y ait plus de GBU pour pouvoir dispenser cette bénédiction. Mon souhait n'est pas qu'il y ait plus d'églises baptistes dans la région, mais qu'il y ait plus d'églises pour dispenser cette bénédiction à tout le monde. Mon souhait n'est pas qu'il y ait plus de groupes de maison, mais qu'il y ait plus de groupes de maison pour avoir de meilleurs outils pour pouvoir être une source de bénédiction pour tout le monde. Peu importe ce que nous le faisons seul en église, ce que nous devons rechercher, c'est d'être une source de bénédiction pour tout le monde, pour les gens là, qui sont à côté de vous, pour les gens qui sont autour de vous. C'est ça, notre vie. C'est ça, notre mission première. Pouvoir bénir tout le monde. Que Dieu puisse bénir tout le monde à travers nous. Voilà notre mission. La dernière fois, c'était quand ma mission tourne au cauchemar. Ce matin, c'est quand ma mission ne sert à rien. Quand notre mission semble à rien, pensons pourquoi nous faisons cette mission, ce service. C'est pour pouvoir être un outil de bénédiction. La finalité, c'est ça. L'amour de Dieu doit nous presser, comme dira l'apôtre Paul, et nous mettra, et doit nous mettre au mouvement. Dieu nous confie cette grande mission d'être un outil, une personne qui permette de bénir les autres, d'être des prêtres, pour reprendre une formulation, si vous voulez, du Nouveau Testament, pour ceux qui aiment bien ça, pour permettre l'expansion de Dieu sur terre, pas de cette source de bénédiction. Mais ce n'est pas facile. Et ça ne sera pas facile d'être source de bénédiction quand le vent semble contraire. Simplement, le refrain. Prends courage et tiens bon. Veille sur toi, veille sur la loi, veille sur ta relation avec Dieu. Dans une société où on recherche le plaisir, quel plaisir a Josué? Bien sûr, il ne se posait peut-être pas cette question, lui. Mais nous, lecteurs, nous témoins aujourd'hui, quel plaisir a Josué de faire ça? Quel plaisir ont les prophètes d'annoncer des choses qui vont se passer? Jérémie, qui va se faire lyncher par tout le monde. Quel plaisir retrouve Josué? Ah, Josué. Le plaisir d'être avec Dieu. Est-ce que nous avons ça? Pourquoi servons-nous? Pourquoi on se casse les pieds à prendre du temps dans nos semaines pour servir l'Église? Voilà ce que je voulais laisser ce matin. Je propose un temps de silence. Comme vous avez vu, j'aimais bien ça. Je propose de prier. Notre bon Père Céleste, nous voyons tout ce que tu souhaites pour nous. Nous voyons que tu nous aimes et que tu veux que nous soyons en relation parfaite avec toi. Et Seigneur, nous te prions de nous éclairer par ton esprit pour être ces personnes aimantes et réceptives. Amen.